Bonsoir.
Processus électoral en RDC, le président de la CENI a affirmé que les contraintes techniques, notamment la révision des fichiers électoraux, ne permettront pas à la CENI d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Pour cela, Corneille Nangaa annonce que la CENI va introduire une requête à la Cour constitutionnelle pour obtenir une petite extension qui, dit-il, ne sera pas éternelle. Quelle lecture faire de cette déclaration? Nous en parlons avec Maître Georges Kapiamba. Il est président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en sigle et coordonnateur de la coalition des 33 ONG. Bonsoir Maître Georges Kapiamba.
Bonsoir Monsieur le journaliste. Bonsoir à tous vos auditeurs.
François Nzekouye, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Bonsoir honorable François Nzekouye.
Bonsoir Guy Maté. Bonsoir aux auditeurs de la radio Capi.
Et professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir professeur Alphonse Maindo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la CENI déclare vouloir introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour obtenir une extension ou un temps supplémentaire lui permettant d'organiser les élections après novembre 2016. Corneille Nangaa affirme que tenir des élections cette année n'est pas possible sans réviser le fichier électoral. Il admet cependant que la CENI peut organiser la présidentielle et les législatives en 2016 si la classe politique décide d'y aller avec le fichier électoral de 2011 avec tout ce que cela comporte comme conséquence. On l'écoute au micro. De la voix de l'Amérique.
J'avais dit la fois passée aux partenaires, la question peut-être vous la poserez, est-il encore possible d'organiser les élections en novembre 2016? J'avais dit oui et non. Oui, la condition pour qu'on organise les élections en 2016 serait que nous, les acteurs, se mettent d'accord et qu'ils disent, oublions la question du fichier, allons encore aux élections avec le fichier de 2011. Ça veut dire qu'acceptons d'aller à ces élections sans plus ou moins 10 à 12 millions de jeunes qui ont été la majorité entre-temps. Allons aux élections avec plus ou moins 2 millions de morts dont les noms doivent être sur la liste. Si les acteurs se mettent d'accord sur ça et qu'ils disent que la CENI organise ces élections, nous irons. Dès lors que ça risque d'être un peu difficile, que les acteurs acceptent ces principes, il faut travailler sur les fichiers. En travaillant sur les fichiers, ça va nous demander un peu plus de temps. Est-ce que les élections vont être organisées au-delà de novembre 2016? Oui, en effet, c'est ce que nous allons demander. Nous allons pour cela faire une requête à la Cour constitutionnelle pour que nous ayons une petite extension.
Une extension,
mais la question n'est pas que cette extension ne devrait pas être éternelle.
Donc début 2017.
Il faut que cette extension soit limitée dans les temps en tenant compte des exigences. Cela est arrivé en 2006, ce n'est pas nouveau.
Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage en sigle et coordonnateur de la coalition des 33 ONG. Il y a deux annonces dans les messages de M. Corneille Nangaa, président de la CENI. Et d'abord, il annonce que la CENI n'est pas à mesure, n'est-ce pas, d'organiser les élections en 2016, compte tenu de certaines contraintes. Et à cet effet, c'est la deuxième annonce, il annonce que la CENI va saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir une petite extension. Et par rapport à au premier volet, n'est-ce pas, de son message, la CENI ne peut pas organiser des élections en 2016. Comment vous comprenez cette déclaration du président de la CENI?
Oui, nous ne partageons pas ce point de vue parce que, d'abord, le président de la CENI dit que la CENI ne peut pas organiser les élections. Il ne précise pas il s'agit de quelles élections. Si j'ai bien compris, il parle des élections législatives, mais aussi de l'élection présidentielle. Nous sommes d'avis qu'en ce qui concerne les élections législatives, il peut se poser effectivement des problèmes de la détermination ou de la fixation des sièges, ce qui peut éventuellement prendre un peu plus de temps. Mais en ce qui concerne l'élection présidentielle, nous disons, cette fois-là avec l'ensemble des experts en la matière, que cette élection peut être organisée valablement d'ici novembre. Rappelez-vous qu'en 2006...
Là, c'est selon les experts.
Oui, mais c'est même si vous prenez les propres calendriers de la CENI qui était publié en février 2015. Toutes les opérations étaient prévues de telle sorte que cette élection puisse correctement se tenir, d'autant plus que l'élection présidentielle a un seul siège qui est l'ensemble du territoire national. Il ne peut pas se poser le même problème qu'il s'est posé en ce qui concerne les élections législatives. Alors je voudrais aussi terminer par dire que lorsqu'il dit... Il parle d'une petite extension, c'est une...
Voilà,
c'est une
expression. On va évoquer cela.
Alors, je termine, si vous permettez. Il dit que il faudrait, si les acteurs sont d'accord, si les acteurs se mettent d'accord pour que qu'on puisse y aller avec les fichiers que c'est de 2011.
C'est pour,
nous savons qu'effectivement, par rapport à ces fichiers, il y a les rapports de l'OIF qui a audité sur ces fichiers. Il a été démontré noir-blanc que pour ces fichiers, il n'y a pas autant de problèmes, à l'exception seulement de l'élimination de 2 millions de morts, comme il l'a mentionné. Mais l'OIF aussi a recommandé à ce qu'on puisse procéder à l'enrôlement des nouveaux majeurs parce qu'on ne peut pas les exclure. Voilà pourquoi nous avons concrètement proposé que la CENI puisse se mettre au travail rapidement pour capitaliser les 7 ou 8 mois qui restent, pour prendre au moins 5 mois afin de procéder à l'enrôlement de nouveaux majeurs dans les 5 mois, ce qui est faisable en considérant uniquement les nouveaux majeurs qui se trouveraient sur le territoire national. Et de deux, prendre un mois pour procéder au nettoyage du fichier électoral, ce qui n'est pas difficile. Donc dans les 6 mois, toutes ces opérations peuvent être accomplies et ainsi convoquer les scrutins dans les 90 jours tels que prévu par l'article 73 de la Constitution. Ça, c'est pas un problème difficile.
Maître Kapchamba, vous semblez surpris par l'annonce de la CENI, mais dès lors que le processus électoral n'évolue plus comme il s'est développé depuis un certain moment, il y a des experts qui ne se faisaient plus d'illusions quant à ce qui concerne plutôt la tenue des élections en 2016. Et n'est-ce pas qu'il y avait des signaux, il y avait des faits, n'est-ce pas, qui montraient que on se dirigeait vers cette situation que vous semblez dénoncer aujourd'hui?
Oui, mais je suis d'accord avec vous que les choses n'évoluent pas très bien. Nous sommes parmi ceux qui ont eu a tiré la sonnette d'alarme depuis l'année passée pour conscientiser les responsables, la direction de la CENI à prendre ses responsabilités, agir avec indépendance en tant qu'institution d'appui à la démocratie pour assurer l'opinion nationale que les élections, principalement l'élection présidentielle, allaient se tenir dans les délais constitutionnels. Mais nous avons constaté, par exemple, lorsque la direction de la CENI prend la responsabilité de mettre à l'écart, de rejeter tous les travaux qui étaient déjà faits, notamment la passation du partenariat avec une entreprise attitrée depuis novembre 2015 qui doit faciliter le travail, notamment d'enrôlement, avec l'élaboration déjà un cahier de charges qui a été réalisé sous la coordination de l'actuel président de la CENI, en lançant un appel international de manière encore à créer d'autres conditions ou de manœuvres dilatoires. À ce moment-là, il faut établir la responsabilité dans les chefs de l'actuelle direction de la CENI.
Maître Georges Kapchamba, Monsieur Corneille Nangaa envisage de saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir, il a souligné, une petite extension qui doit être limitée dans les temps, démarche que vous dénoncez à la coalition des 33 ONG, affirmant que ces projets visent à prolonger illégalement les délais de l'élection présidentielle. Pourtant, Monsieur Nangaa ne parle que d'une extension, une courte extension.
Oui, nous avons d'abord rappelé qu'il se trompe d'époque, parce que nous venons tous de le suivre. Pour justifier cela, il se rapporte en 2006. 2006, ça veut dire que c'était l'application de la Constitution qui régissait la période de la transition, qui prévoyait au moins la possibilité pour faire prolonger de 6 mois, délai de 6 mois renouvelables une seule fois et qui habilitait la CENI à pouvoir saisir effectivement la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de justice qui faisait office de la Cour constitutionnelle à cette époque. Donc, aujourd'hui, nous sommes sous l'emprise d'une autre constitution qui ne prévoit pas cette hypothèse. Voilà pourquoi nous rejetons en bloc cette démarche qui ne peut pas trouver d'assise dans la constitution actuelle et qui constituerait dans les chefs de la CENI comme une énième manœuvre dilatoire pour ne pas organiser cette élection. Les choses sont claires. S'il travaille d'arrache-pied en procédant immédiatement à l'enrôlement, dans les 6 mois, on aura tout terminé et l'élection présidentielle peut avoir lieu sans aucune difficulté.
Donc, tout est fonction de la volonté politique.
Tout est fonction de la volonté principalement dans les chefs des responsables de la CENI, parce que ce sont ces acteurs, ces responsables qui ont la charge d'organiser ces élections.
Merci. François Zécouillet, député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Les élections devraient être organisées au-delà de 2016. Comment la majorité présidentielle vous réagissez à cette annonce du président de la CENI?
Ben, de toute façon, pour nous, il n'y a pas de surprise par rapport à cette annonce. Et nous avons assisté à la première conférence de presse du président actuel à CENI, Corneille Nangaa, où il a été clairement démontré que les précédentes constitutions de fichiers électoraux ou révisions du fichier électoral ont pris entre 14 et 16 mois. Les premiers fichiers électoraux constitués en 2005 pour les élections de 2006 ont pris 14 mois. La révision du fichier électoral organisée par Ngoï Mulunda a pris 16 mois, en ayant tous les moyens disponibles. Et donc, pour nous, il était clair que, à dater de cette conférence de presse, qui, si je m'abuse, a eu lieu au mois de janvier, et donc, nous étions déjà dans le dépassement du délai constitutionnel si tous les moyens étaient mis à disposition de la CENI au mois de janvier. Et d'autre part, et mon co-débatteur Georges Kapiamba l'a dit, l'Organisation internationale de la francophonie, la Constitution de la République, les accords que nous avons signés, nous obligent d'enrôler le nouveau majeur. Et pour lui, il estime que cela peut se faire en dehors 5 à 6 mois. Ce qui n'est pas le point de vue de l'ensemble des experts en la matière, parce qu'il a dit l'ensemble des experts en la matière. Je lui rappellerai que le président Lili Koko a dit que ce n'est pas faisable. J'oublie son nom, je me rappellerai de son nom.
Ernest Pararo.
Et là, il y a un deuxième, j'oublie encore le nom, je me rappellerai. Il y a plusieurs acteurs spécialistes en matière électorale. L'inélite, voilà, c'est plutôt l'inélite à laquelle je faisais allusion. Qui a dit que ce n'est pas possible d'organiser les élections en 2016? Ils l'ont démontré devant vous ici sur Radio Capi et dans d'autres organes. Il est tout aussi clair qu'il n'est pas simplement question d'élaguer 2 millions de décédés sur les fichiers électoraux, mais il y a aussi des doublons qui existent sur ces fichiers électoraux. Il y a même une partie de l'opinion qui pense que la nouvelle carte d'électeur doit être remise à tous les Congolais. Car, pour beaucoup, avant la mise en place des nouvelles provinces, les adresses aujourd'hui ont changé. Et donc, il y a un
tas de... Tout cela entre dans le travail de révision des fichiers électoraux.
Voilà. Tous ces éléments-là exigent une révision du fichier électoral. Alors, et aujourd'hui, donc, il est clair que cette révision prendra beaucoup plus de temps qu'on le pense. Et les moyens ne sont pas encore disponibles. Il faut qu'on se les dise. Le gouvernement a fait la promesse de mettre à disposition de la CENI 300 millions de dollars, mais à ce jour, il ne les a pas encore mis à la disposition de la CENI entièrement. Les bailleurs de fonds extérieurs qui veulent soutenir la CENI n'ont fait que des procès d'intention. Et donc aujourd'hui, le réalisme du président de la CENI veut qu'il saisisse la Cour constitutionnelle pour cette matière. Alors, j'entends l'opinion qui dit... La CENI n'est pas inscrite parmi les institutions qui sont habilitées à saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation.
Non, je réfère à l'article 161 de la Constitution.
La CENI n'a pas consulté la Cour constitutionnelle en question d'inconstitutionnalité. Cela doit être clair et beaucoup d'acteurs politiques sont fourvoyés sur cette question. Est-ce que la Cour, la CENI, a droit de consulter la Cour constitutionnelle? Kapiamba a dit, sous le régime de la Constitution de la Transition, il en avait le droit. Et la référence
la
fait, à laquelle...
En 2006.
Voilà. La référence à laquelle Nanga fait allusion serait plutôt fort de cette Constitution. Non.
Dans le contexte actuel, honorable François Ndékouyé, dans le contexte actuel, est-ce que la CENI est habilitée à saisir la Cour constitutionnelle?
La jurisprudence l'éprouve. Pour organiser le second tour des élections de 2006, vous vous rappelez que la Constitution de 2006 non révisée disait à l'article 71 que le deuxième tour est organisé dans un délai de 15 jours. Cependant, nul n'ignore que les élections du deuxième tour de 2006, avec l'accord de la Cour suprême de justice, ont été organisées 4 mois plus tard, sans qu'aucune disposition de la Constitution ne les dise expressément. Ça veut dire que ce qui n'est pas interdit est permis.
Et cette jurisprudence à laquelle vous faites allusion, avait comme base, n'est-ce pas, la Constitution qui avait régi la période de transition.
Non, c'est avec la Constitution de 2006 qu'Apiamba a laissé. Ce n'est pas la constitution de la transition, c'est la constitution de 2005
qui a été passée au référendum.
Je vous dis, il y a une jurisprudence. Quand une constitution est révisée, ça ne veut pas dire que toutes les dispositions de la constitution tombent caduques. Et donc, sur base de cette même constitution qui a été révisée à certains articles en 2011, La CENI a saisi la Cour suprême de justice pour obtenir d'elle les reports des élections du deuxième tour, élections présidentielles du reste. Et donc, il est possible, mutatis mutandis, de considérer que la CENI a le droit de demander à la Cour constitutionnelle, tenant compte des difficultés techniques avérées, de reporter l'élection présidentielle tout en ayant un délai constitutionnellement prévu, parce que 15 jours étaient prévus pour le second tour des élections présidentielles, et aujourd'hui, on dit, c'est en ayant 90 jours à dater avant la fin du mandat du président de la République. Donc, ce délai-là, il peut être, par la Cour constitutionnelle, changé sur base des requêtes de la CENI, qui, sur base des éléments matériels, est en droit de saisir la Cour
constitutionnelle. Honorable Ndékouyé, brièvement, pour ne pas donner l'impression que la Cour constitutionnelle, plutôt la CENI, mène une démarche qui va à l'encontre de la Constitution, elle se baserait sur quel article de l'actuelle Constitution pour justifier, n'est-ce pas, sa démarche à l'endroit de la Cour constitutionnelle?
La question qu'il faut plutôt se poser, c'est sur base de quel article la CENI s'est basée pour faire la saisine de la Cour suprême, oui, la CI à l'époque, l'a fait sur base de la même constitution qui nous régit aujourd'hui. Je ne suis pas personnellement juriste pour entrer dans le
néant. On l'a dit,
mais ce ne sont pas ces dispositions dans son fond qui ont été révisées. Parce que la CENI a obtenu les reports d'une élection présidentielle.
Merci.
Sans qu'une disposition constitutionnelle n'ait prévu cette disposition-là.
Merci. Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Comment vous analysez cette déclaration du président de la CENI?
Bien, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a des gens qui demandent une transition politique. Hein. On se souvient, il y avait eu Mwana Semi, et voilà, donc à chaque fois, on fait comme si on lançait une espèce de ballon d'essai pour voir un peu la température, est-ce que les gens vont mordre ou pas du tout. Donc c'est une énième tentative de proposer une transition politique, parce que c'est à peu près ça que l'on veut dire. Alors, ceci dit, je pense que la bonne démarche qu'on aurait dû adopter au niveau de la CENI, ce serait de voir. Bien, on est là face à des contraintes de temps. Vu le temps qui nous reste, au lieu de nous disperser, de nous distraire, il faudrait plutôt se poser la question, comment et que faire pour réaliser l'objectif qui est fixé à la CENI, c'est-à-dire organiser les élections dans les délais constitutionnels. Alors, donc, si la CENI fait cette démarche-là, elle va essayer de produire un calendrier qui tienne compte de cette contrainte de temps et va proposer des solutions qui soient appropriées et pas aller, si vous voulez, oublier l'objectif. C'est comme on vous donne, vous avez un salaire de 1 000 $ par mois, vous ne pouvez pas faire un budget pour votre famille de 20 000 $ par mois. Vous serez obligé de vous endetter et vous risquez de ne pas vous en sortir. Donc, on a un timing et donc il faut concevoir quelque chose qui permette de faire ça. Et justement, c'est dans cela qu'on reconnaîtra les génies de la CNI et les génies de notre pays. C'est comme disait Joseph Arnold Toynbee dans la théorie des défis, une nation se reconnaît dans sa capacité à pouvoir relever les défis qui se posent à elle. Quand elle n'arrive pas à relever les défis, c'est la décadence de cette nation-là. Et justement, nous sommes face à un grand rendez-vous de notre histoire. Nous devons faire preuve de beaucoup d'imagination pour trouver des solutions. Et on devrait également se poser la question, comment en est-on arrivé là? Parce que si on se pose cette question-là, comment on en est arrivé là, on va trouver les bonnes causes et les bonnes institutions auxquelles on doit s'adresser pour résoudre la crise. Parce qu'on peut s'adresser aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, mais la Cour constitutionnelle va encore nous renvoyer auprès des mêmes institutions auxquelles nous devrions plutôt nous adresser aujourd'hui, c'est-à-dire lesquelles? Il y a un Parlement qui est responsable, qui est l'institution qui est responsable d'autoriser les budgets, qui est responsable de contrôle du gouvernement, tout ça. Donc, on va nous renvoyer encore à cette institution. Il y a également quoi? Il y a également le gouvernement qui devrait mettre les moyens pour organiser les élections. Ça veut dire que la CNI devrait plutôt s'adresser à ces institutions-là pour leur dire, voici les délais qui me restent. Moi, je propose aussi, donnez-moi les moyens.
Oui, professeur.
Nous avions suivi, oui, professeur un groupe d'experts, oui.
Oui, vous dites que la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment, que faire pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. La CENI, à travers son président, dit que, compte tenu des contraintes contre lesquelles elle est butée, ne peut pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. Et vous pensez que, dès lors que cette CENI, qui a comme vocation organiser les élections, dit qu'elle ne peut plus et n'est pas en mesure d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, vous pensez qu'il faut encore se poser une telle question, savoir comment on peut organiser ces élections dans ces délais?
Oui, évidemment, on est dans les bons temps. On est dans les bons temps pour pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Les élections devraient être organisées en novembre. Et donc, si on se donne, comme certains experts avaient, notamment de la francophonie, qui avaient audité les fichiers électoraux, avaient dit que dans 6 mois, on pourrait faire la révision des fichiers électoraux, il y a même d'autres experts qui ont dit qu'on pourrait les faire en 4 mois. Et donc, on peut faire ce travail-là pour dire, voilà. Sauf si on veut faire un peu ce que Achille Mbembe appelle de la nécropolitique. Donc, ça veut dire on veut faire une politique, au lieu de faire de la biopolitique, on fait la nécropolitique. Une politique qui ne donne pas la vie, qui a tendance à produire que du noir, qui a produit que de la mort, au lieu de produire de la vie, pour donner une chance à tout ce qu'il y a. Voyez-vous ? Il faut pas qu'on se détourne de cet objectif qui est là, c'est l'objectif d'éviter de créer de fortes tensions inutiles dans ce pays qui a trop souffert. Ce pays, c'est un pays qui est fragile, et donc il faut pas multiplier des actions qui vont dans le sens de la fragiliser encore davantage.
Professeur, la coalition des 33 ONG, dans son communiqué, affirme que la CENI n'a pas qualité de saisir la Cour constitutionnelle, et que la Cour constitutionnelle n'a plus compétence de prolonger les délais de l'élection présidentielle. Cela voudrait dire que la CENI s'inscrit là dans une logique qui n'est pas prévue nulle part dans la Constitution.
Évidemment, lorsque on voit cette tentative, on peut bien se demander, puisque je pense que la CENI fait une sorte de fuite en avant. Une fuite en avant pour qu'on ne puisse pas dire que c'est la CENI qui est responsable de la situation de pourrissement, de la situation explosive que le pays va de la zone de turbulence que le pays va rencontrer, dans laquelle les pays va se retrouver. Alors on renvoie la balle à une institution dont on sait très bien qu'elle n'a pas les compétences sur ces sujets-là. Et on sait aussi très bien que cette institution, une fois qu'elle prend une décision, cette décision, elle est sans appel. Et donc on va mettre les gens devant un fait accompli qui est sans possibilité de recours. Et ça, justement, c'est une situation qu'il faudrait éviter parce que ça peut entraîner à des dérives graves.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est déclaré hier lundi à New York très préoccupé par l'impasse politique en RDC. Il a ajouté qu'il redoutait un regain des tensions dans les pays. Au cours d'un débat au Conseil de sécurité sur la situation dans la région des Grands Lacs, il a appelé une nouvelle fois tous les intervenants à régler leurs différends par les dialogues et à créer des conditions propices à la tenue des élections. On écoute cet extrait de la déclaration du secrétaire général des Nations Unies recueillie par nos confrères de la radio des Nations Unies à New York.
Je suis également très préoccupé par l'impasse dans laquelle se trouve encore l'organisation des prochaines élections en République démocratique du Congo. Lors de mon récent déplacement dans le pays en février, j'ai prié instamment tous les intervenants de régler leurs différends par le dialogue et de créer des conditions propices à la tenue en temps voulu d'élections crédibles conformément à la Constitution. Par le passé, les crises politiques qui ont frappé la région des Grands Lacs se sont traduites par des violences généralisées et de graves problèmes de sécurité. Nous devons empêcher ce scénario de se reproduire. Je demande au Conseil de sécurité et aux dirigeants de la région de nous aider à préserver la stabilité politique en République démocratique du Congo en trouvant rapidement une issue à l'impasse actuelle.
Brève réaction. Professeur Alphonse Mahindo, comment analysez-vous cette déclaration de Ban Ki-moon qui affirme qu'il est très préoccupé par l'impasse politique en RDC?
Oui, ben, vous savez, les Nations Unies se sont beaucoup investies pour pouvoir arriver à la situation que l'on connaît aujourd'hui au Congo, réunifier les pays, pacifier les pays et tenter de la stabiliser jusqu'au point où on en est là. Et je rappelle que la mission des Nations Unies au Congo, c'est la mission la plus importante. Et donc, il y a beaucoup de budget. Il y a un budget très élevé, de plus d'un milliard de dollars chaque année qui est investi ici dans ce pays. Et donc, les Nations Unies, ils ne voudraient pas avoir, je comprends la préoccupation de M. Ban Ki-moon, ne voudraient pas voir tout cet investissement aller en néant parce que les risques d'implosion, les risques d'instabilité sont quand même très élevés. N'oublions pas que il y a encore un certain nombre de Congolais qui pensent qu'ils peuvent régler les affaires par la force et par la violence, et tous ces groupes armés qui continuent à opérer à l'est du pays. Tous ces gens qui ont été défaits, on apprend ça et là qu'il y a des groupes, il y a des gens qui essaient de se réorganiser, qui avaient été défaits, qui voudraient refaire la guerre au Congo. Et donc tous ces gens-là peuvent profiter fait que les politiques ne s'arrangent pas pour replonger notre pays dans le chaos. Alors c'est pour ça que nous devons régler politiquement les affaires.
Merci, professeur.
Nous devons donc parler, oui.
Merci, François Ndekouye. Ban Ki-moon redoute un regain de violence dans le pays. Votre réaction?
Oui, je crois que Ban Ki-moon a raison de craindre les regains des tensions dans la région des Grands Lacs. Parce qu'il faut savoir que la région des Grands Lacs n'est pas simplement la RDC, mais c'est l'ensemble des pays qui la composent. Mais aussi, cette préoccupation de Ban Ki-moon, elle est légitime, mais je voudrais bien qu'il aille plus loin. Parce que si Nanga dit aujourd'hui qu'on peut organiser les élections en novembre, si tous les moyens sont mis à la disposition, il l'a dit en tout cas à sa première conférence de presse, c'est qu'il faut que les moyens se mobilisent. Il ne faudrait pas qu'on multiplie les chapelets des bonnes intentions.
Il n'a pas beaucoup insisté sur les moyens, mais plutôt sur la révision des fichiers électoraux.
C'est ce que nous disons. La révision des fichiers électoraux ne se fera pas sans moyens. Il faut qu'on se mette d'accord. Et par rapport à ce que Kapiamba a dit, qui rejoint Ban Ki-moon, Nanga l'avait dit encore une fois en disant, nous pouvons organiser les révisions des fichiers électoraux en 5 mois si nous multiplions l'argent et le personnel. Mais est-ce que nous en sommes là? Parce que nous ne sommes pas en train de faire des réflexions hypothétiques.
Et donc, lorsque j'ai posé la question à M. Kapiamba pour demander si le problème n'était pas lié à une volonté politique, j'avais raison.
Non, ce n'est pas un problème de volonté politique, c'est un problème de moyens. Est-ce que la RDC dispose aujourd'hui des possibilités de mettre 1 milliard de dollars pour organiser toutes les élections maintenant? Non.
Est-ce que la communauté internationale nous les a apportés comme cela a été le cas en 2006? J'ai dit encore non. Et donc, nous sommes dans cette situation et nous devons réfléchir de manière réaliste de ce que nous devons faire.
Merci, honorable. Maître Georges Kapiamba, le secrétaire général des Nations Unies, appelle une fois de plus tous les intervenants à régler leurs différends par le dialogue et à créer des conditions propices à la tenue des élections. Comment vous comprenez cet appel de M. Ban Ki-moon?
Oui, permettez-moi de préciser quelque chose. J'ai suivi l'honorable évoquer une jurisprudence. Je crois peut-être qu'il a fait allusion à l'arrêt du 31 juillet de 2007 de la Cour suprême de justice, siégeant comme cour constitutionnelle, mais il oublie que cette décision avait déclaré inconstitutionnelle la décision de la CI à l'époque, qui avait fixé le calendrier du second tour en violation de l'article 71 de la Constitution qui régissait cette période de transition, en ramenant ça au 29 octobre 2006, ce qui avait poussé les deux présidents de deux chambres à pouvoir prendre une décision pour ressaisir la Cour constitutionnelle et obtenir ainsi la prolongation.
Et par rapport à l'appel de M. Van
Par rapport à cet appel, je voudrais en faire aussi mien, parce que ça fait plusieurs mois que tous nous tirons la sonnette d'alarme pour appeler principalement le gouvernement et la CENI à prendre les responsabilités pour pouvoir organiser les élections dans les délais constitutionnels. Mais ici, nous devons être tous clairs pour mentionner les problèmes qui restent. J'ai entendu l'honorable évoquer l'expert de la Linelite, mais il faut lire les documents, nous l'avons lu. Il mélange beaucoup de choses. Ici, nous parlons de l'élection présidentielle qui doit se tenir 90 jours avant la fin du mandat du président sortant. Mais qu'est-ce que vous trouverez dans ce document de la Linelite? On vous dit qu'il faut faire, par exemple, l'enrôlement de tous les majeurs, les Congolais majeurs, même ceux qui se trouvent dans la diaspora, tout en sachant que par rapport au temps et aux moyens que disposent les pays, on ne peut pas y arriver. Voilà pourquoi nous avons proposé concrètement, et là nous avons rejoint même le point de vue de l'OIF, qu'il faut organiser l'enrôlement des nouveaux majeurs qui sont estimés à plus ou moins 12 millions, mais ceux qui se trouvent sur les territoires nationaux, parce qu'à ce moment-là, ça ne demandera pas beaucoup de moyens au pays. Ici, c'est un problème, effectivement, comme vous l'avez dit, de volonté politique, principalement dans les chefs du gouvernement, parce qu'il faut donner des moyens. Et l'élection présidentielle, il faut aussi qu'on se le dise, honorable, c'est une élection qui va se tenir sur un siège unique qui ne posera pas les mêmes problèmes que poseraient les élections législatives.
Maître Georges Kapiamba, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kolwezi.
C'est Philippe Mateka à Kolwezi, au Lualaba. Les nombreuses contraintes qui s'imposent pour bien organiser les élections en République démocratique du Congo obligent la classe politique congolaise, toutes tendances confondues, d'accompagner cette démarche de la CENI afin d'aboutir à un processus électoral apaisé.
Oui, maître Georges Kapiamba.
Oui, mais il s'agit de quelles contraintes? Là aussi, nous devons être transparents. Nous avons tous suivi dernièrement, le président de la CENI a annoncé l'acquisition de 40 millions de dollars qui ont été mis à leur disposition par le gouvernement. Si, comme le prof l'a dit tout à l'heure, il faut faire la politique de ses moyens. Nous disons, avec même les experts, nous avons suivi le pasteur Ngoï Mulunda, le professeur Ndioli, qui ont eu à gérer déjà les mêmes situations dans ces pays, qui ont dit que si on prend les choses en main, avec bonne volonté, dans les 5 mois, on peut organiser, avec les moyens qui sont disponibles, organiser l'enrôlement des nouveaux majeurs, un autre mois, soit 6 mois, nettoyer les fichiers électoraux et rattraper le temps pour organiser l'élection présidentielle. N'oublions pas qu'en 2006, ça a été fait dans les 8 mois et en 2011, on a organisé l'élection présidentielle au premier tour dans les 6 mois. Comment est-ce qu'on ne peut pas le faire cette fois-ci? À moins qu'on soit fondamentalement de mauvaise foi. Mais permettez-moi que je mentionne que, sauf si le président de la CENI voudrait amener le pays à l'article 76, l'alinéa 4, parce qu'à ce moment-là, il veut dire à la nation congolaise qu'il y aura des déclarations de vacances au niveau de la présidence, parce que c'est l'unique hypothèse qui est prévue dans la Constitution pour que la CENI puisse saisir la Cour constitutionnelle.
Vous ne pensez pas que la majorité pourra vous opposer l'article 70, alinéa premier, qui dit que les chefs de l'État restent en place jusqu'à son remplacement par celui qui sera élu?
Non, mais même là, je pense que si on veut faire une interprétation réelle, l'article 70 parle du président, utilise du président qui est un article défini, ne parle pas d'un président. Cela suppose que pour que le président sortant puisse rester en fonction, il faudrait qu'il y ait eu d'abord son successeur qui est connu, qui est élu. Merci. Pour justifier à ce qu'il puisse continuer à attendre son installation. Au cas contraire, on applique carrément l'article 75 qui déclare la vacance et qui donne la gestion de la transition au président du Sénat jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle.
Merci, François Zekouillet. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kinshasa.
C'est l'analyste politique Patient Biamungu Rukuba depuis la ville-province de Kinshasa. L'idée en soi n'était pas mauvaise, mais par le fait qu'elle était déjà préméditée, et correspond au plan d'un camp politique qui est celui d'obtenir un taxe supplémentaire aux affaires, l'entreprise du président de la CENI devient génocidaire depuis démocratique préétablie. En plus, il le dit en sentant déjà l'avis favorable qui lui sera réservé par la Cour constitutionnelle à l'exemple de l'avènement de la nomination inconstitutionnelle des commissaires spéciaux à la tête des provinces alliées et place des gouverneurs. L'on dirait que c'est un plan dans lequel les trios majorité présidentielle, CENI et la Cour constitutionnelle sont des acteurs principaux pour constitutionnaliser l'inconstitutionnel.
On ajoute cette déclaration d'Augustin Tedilongue qui vient de Bukavu Sud Kivu. Je demande à la Cour constitutionnelle de se souvenir de sa position prise lors de la nomination des commissaires spéciaux pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs du passé afin de retrouver sa crédibilité perdue.
Oui, mais je crois qu'il n'y a pas de contradiction avec le président de la CENI. Encore une fois, je ne suis pas porte-parole du président de la CENI, mais j'ai réfléchi objectivement. Et donc, si se réfère à cette histoire des commissaires spéciaux, la CENI avait fait encore une saisine à la Cour constitutionnelle et c'était pour quelle raison? Les assemblées provinciales n'étaient pas encore constituées, il n'y avait pas de règlement intérieur des assemblées provinciales, donc ils ne pouvaient pas organiser les élections. Une fois cela fait, la Cour constitutionnelle valide les règlements intérieurs des assemblées provinciales, les élections vont avoir lieu ce week-end. Donc, les raisons peuvent exister, les cas de force majeure peuvent exister qui empêchent l'organisation d'une élection. Et là, je vais rejoindre encore Kapiamba. Et je suis heureux qu'il ait évoqué la liste 116. Il croyait probablement le faire contre l'opinion qui veut effectivement croire que la CENI a la capacité de saisir la Cour constitutionnelle. Quand il évoque l'alinéa 4, où on dit en cas de force majeure, ce délai peut être prolongé de 120 jours au plus pour par la Cour constitutionnelle saisie par la Commission électorale indépendante nationale. Ça veut dire, si pour une question de vacances du chef de l'État, il y a un cas de force majeure, on peut saisir la Cour constitutionnelle, pourquoi quand il y a un président...
Laissez-moi
finir mon idée, Guy Maté, vous m'interrompez tout le temps, je peux perdre le fil de mon idée. Je vais la terminer tout de suite. Si en cas de vacances président de la République, il est possible qu'il y ait un cas de force majeure qui empêche d'organiser une élection, pourquoi en cas d'un président de la République en exercice, un cas de force majeure ne peut pas arriver? Et qui permettrait à ce moment-là à la série de saisir la Cour constitutionnelle? Donc, si cela est permis dans un cas, il peut l'être dans un autre. Il ne faudrait pas qu'on ait un fixisme juridique qui risque de bloquer la nation et dire, si jamais on n'organise pas les élections, à ce moment-là, la CENI va être taxée des responsables de la non-organisation des élections, parce que elle, effectivement, le pouvoir organisateur, il faut qu'elle se prémunisse de tous les moyens pour pouvoir dire à l'opinion quand est-ce qu'elle est capable d'organiser les élections objectivement. Est-ce que c'est mal
sélectionné? Et quand est-ce qu'on constate, n'est-ce pas, cette vacance de la présidence de la République?
Non, on ne parle pas de vacances pour le moment. La Constitution prévoit les circonstances des vacances. C'est les décès, c'est la démission du président de la République.
Il y a un empêchement
Un empêchement définitif.
Et donc l'empêchement définitif peut être un emprisonnement. Et puis il y a beaucoup, les cas sont limitatifs par rapport à notre constitution. Et donc on ne peut pas aujourd'hui nous dire que nous sommes dans cette hypothèse. Mais nous disons que ceux qui disent que la CENI n'a pas le droit de saisir la Cour constitutionnelle, c'est Trump. Parce qu'il y a des cas, clairement, comme à l'article 76, où il est clairement dit que la CENI peut saisir. Donc, s'il est permis de le faire dans ces cas, il peut le saisir dans une autre circonstance.
Merci, professeur Mahindo. Il y a une réaction pour vous.
Maître Jean-Paul Mboulombo, dans la ville de Goma. En fait, de notre point de vue, la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la loi, elle n'est pas au-dessus de la Constitution, elle a reçu mandat d'assurer la constitutionnalité des actes apportés par les autres institutions. La CENI ne doit pas prendre la Cour constitutionnelle comme étant l'institution qui peut lui autoriser à elle de violer la Constitution dès lors que l'article 70 de la Constitution, alinéa 2, en prévoyant que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu et non pas du prochain président à élire, cette requête elle-même sera anticonstitutionnelle dans la mesure où elle invite la Cour constitutionnelle non seulement à violer sa propre mission qui est de garantir la constitutionnalité des lois. Mais...
Oui, professeur Mahindo.
Oui, alors bon, d'abord il faut pas il ne faudrait pas qu'on puisse préjuger de si vous voulez de la réponse de la Cour constitutionnelle. Parce que lorsqu'il se pose une question de droit, la seule institution habilitée c'est la Cour constitutionnelle. Donc on lui pose la question pour savoir est-ce que cette disposition que l'on a là est-ce qu'elle rentre dans le cadre de la Constitution ou pas. Et donc la Cour va regarder et va regarder est-ce que ça va et va elle peut se poser d'autres questions. Est-ce que cette mesure-là, si elle ne rentre pas dans le cadre de la Constitution, ou même si elle est dans le cadre de la Constitution, est-ce qu'elle ne peut pas compromettre la nation, l'idée des nations d'être ensemble, le vouloir vivre ensemble? Et donc, il y a tout un tas d'éléments qui doivent être pris en compte par la Cour constitutionnelle. Et je pense que, normalement, la Cour constitutionnelle, si elle devait répondre à la question de la CENI, si la CENI lui a adressée, elle devrait dire non. Que je ne peux pas vous donner une prolongation, puisque vous avez encore le temps. Voyez-vous? Donc, on n'est pas là dans une position de faire ça. Je pense que si je peux ajouter un élément par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut nous mettre dans une situation, s'il y avait aujourd'hui un cas de force majeure, une situation grave, que ferions-nous? Que ferait le gouvernement? Ne mobiliserait-il pas les moyens qu'il faut pour ça? Souvenons-nous de ce qui s'est passé lorsque le M23 a pris à attaquer Goma et les autres endroits là-bas à l'est. N'est-ce pas? On a levé des fonds, des budgets qui n'étaient pas prévus au départ pour faire face à cette situation-là. Pourquoi ne fait-on pas ça aujourd'hui? Et en plus, les partenaires financiers du Congo ont dit qu'ils étaient prêts à mettre la main dans la poche à condition que la CENI produise un calendrier réaliste pour tenir dans les délais constitutionnels.
Merci.
Pourquoi ne fait-on pas ça?
Merci, professeur Mahindo. Je considère ça comme votre conclusion. Maître Georges Kapiamba, comment vous entrevoyez la suite si la CENI saisissait la Cour constitutionnelle et obtenait l'avis favorable de cette haute Cour? Ça sera sur votre haute conclusion.
Oui, d'abord, si le président de la CENI continue à soutenir son point de vue, ça va immédiatement sincèrement les discréditer et ça va établir qu'il veut employer de plus en plus des manœuvres dilatoires pour ne pas respecter les délais constitutionnels et là il commettra purement et simplement une parjure, commettra aussi l'abstention coupable, ce qui n'est pas une bonne chose. Enfin, je voudrais rappeler que dans l'hypothèse que nous avons évoquée de l'article 76, j'ai entendu l'honorable bondir là-dessus, ça c'est lorsque la vacance est déjà déclarée, mais la vacance ne peut être déclarée que lorsqu'il y a l'intérim mis en marche conformément à l'article 75. Si c'est
Merci.
À ça qu'on voudrait nous amener, nous allons tous constater l'application de la Constitution,
Merci,
mais nous
ne
souhaiterons pas qu'on arrive à ça.
Merci, honorable François Dépouillé. Comment vous entrevoyez la suite si la CENI obtenait l'avis favorable, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle?
Bah, je crois. C'est votre conclusion, ma conclusion est que nous devons privilégier la stabilité, la paix dans notre pays et que les élections ne sont pas une fin en soi, ce sont des moyens qui permettent d'organiser la société. Et si on peut les tenir plus tard ou plus tôt, L'essentiel, c'est qu'on les tienne dans la paix.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue en Congolais, Alain Rung et Kéline Kouté sous la supervision de Julien Nyamoyi. À la présentation, Guy Maté, bonne suite. Merci et bonne suite au programme sur Radio Capitaine.